Voix Nue. Cette semaine, Virginie Despentes et Élodie Deglaire rencontrent Jean-Claude Fasquelle. Ce soir, 4 décennies en compagnie d'écrivains.
Jean-Claude Fasquelle, les années 80 viennent confirmer une tendance amorcée pendant la décennie des années 70. Les éditions Grasset et Fasquelle remportent en 10 ans 4 prix Goncourt, 4 prix Renaudot, 5 prix Médicis et la bagatelle de 7 prix interalliés. La première question est, que s'est-il passé avec ces dames du féminin pour qu'elles résistent aussi obstinément à votre méthode ?
Ouf ! Quelle question !
Quel palmarès déjà ! Parce
que quelle question ! Comment un homme peut-il répondre quand on lui demande pourquoi une femme lui a résisté ? C'est difficile.
Non, mais de tous les prix, les prix féminins est le seul que Grasset ne remporte pas une année sur deux.
Non, je crois que la production de Gallimard devait être plus proche de leur
affinité,
leurs idées, probablement. En tout cas, c'est l'impression que ça donne, vu le palmarès. Et puis, je crois que le fait aussi que nous avions d'autres prix, est-ce que ça nous rendait moins agressifs ? Je ne sais pas. En tout cas, c'est vrai, ça s'est passé comme ça. Alors que le retour de Grasset dans les prix littéraires s'est fait par le féminin. C'est Yves Berger avec Le Sud en 62, 4 ans avant la fameuse année 66, qui a obtenu le prix féminin.
C'est quoi un bon prix littéraire ?
Ça dépend de ce à quoi le jury est voué, en principe. Je veux dire, je pense qu'un bon Médicis peut très bien être un livre qui ne sera pas un livre de grande vente, mais un livre qui sera qui apportera quelque chose à la littérature de son époque. Une nouveauté, quelque chose d'un peu nouveau. Alors que un prix Goncourt, en principe, devrait ne pas décevoir un nombre très important de lecteurs. Alors, ils peuvent se permettre de temps en temps des dérogations. Alors, je suis en train de vous dire qu'un bon prix est un livre qui plaît. Mais au fond, c'est peut-être vrai. C'est peut-être vrai. L'idée étant de la pyramide à l'envers, c'est-à-dire un manuscrit commence à plaire à une petite équipe d'édition, puis ensuite à des gens qui sont dans la profession du livre, mais qui vont le faire savoir davantage, peut-être les jurés, les critiques. Puis ensuite, c'est les libraires. Puis ensuite, le public. Pyramide à l'envers.
Est-ce que c'est lors de cette année de grâce et de tous ces prix que Grasset s'installe en concurrence avec des maisons beaucoup plus grosses qu'elle, et l'importance de Grasset est prépondérante à partir de ce moment-là par rapport aux autres maisons ?
Prépondérante, elle n'a jamais été. Elle n'a jamais été prépondérante. Il ne faut pas être... Il faut garder les choses en face. La maison qui a été prépondérante, qui l'est toujours, c'est Gallimard.
On dit quand même Galli-Grasseuil.
Oui, mais... On dit Galli-Grasseuil parce que les prix littéraires tombaient généralement dans une de ces trois maisons pendant toute une époque. Mais, si vous voulez, autant, Gallimard avait une production littéraire qui orientait les auteurs vers quelque chose qui ne me plaisait pas, d'ailleurs. Je veux dire, personnellement, je trouve que Sartre est l'homme qui a fait le plus de mal à la littérature française au monde. Parce que il donnait des complexes aux gens qui écrivaient bien. C'est terrible, c'est un meurtre. Mais ce gaillard a régné sur le bien et le mal pendant des années.
Vous l'avez rencontré, vous l'avez côtoyé ?
Sartre, je l'ai côtoyé, oui.
Avec des plaisirs ?
Non. Non, non, il était très sympathique. Non, on n'était pas très liés. Enfin, on se voyait comme ça, de temps en temps, au Flore.
Et pour parler de Gallimard, justement, au début des années 80, Françoise Verny quitte les éditions Grasset et Fasquelle pour rejoindre Gallimard. Qu'est-ce qui s'est passé ?
Oh. Il s'est passé que... Bon, Françoise Verny était très très liée avec Françoise Malégeris. Françoise Malégeris était très liée avec la chanteuse, comment ça s'appelle ?
Marie-Paul Bell ?
Oui, voilà. Marie-Paul Bell. Et puis, tout ce beau monde disait que l'édition était en train de rater le train de l'audiovisuel, etc. Et que...
Mais de rater le train, c'est-à-dire ?
Ben, qu'on n'avait pas de structure pour transformer des textes en images ou des choses comme ça. Et alors, avec une amie à elle, Gallimard a décidé de faire un Gallimard audiovisuel avec Françoise Verny, qui est passée donc là-bas, avec Françoise Malégeris. Alors, sur le moment, ça a été un choc violent, surtout que c'était au mois d'août, j'étais en vacances en Espagne. J'ai dû rentrer d'urgence, que me semblait vraiment le comble de la mauvaise éducation.
Vous essayez de la retenir ?
Oui. Oui, oui. Et en fin de compte, les dégâts étaient limités, puisque seule Françoise Malégeris s'est partie. Mais voilà, d'ailleurs, Françoise Verny, je l'ai récupérée quelques années plus tard. Elle voulait revenir, quand elle est partie chez Flammarion, elle voulait revenir chez nous. Mais il y a eu un tel... Chez beaucoup d'auteurs de la maison, il y a eu un tel... tellement violent, de violentes réactions à son départ, des gens qui ont pris, qui sont... J'ai compris que si je la reprenais à ce moment-là, ils considéraient ça comme une trahison. Du genre, c'est pas la peine de t'avoir soutenu, etc., pour que, à la première occasion, voulant, tu la reprends. Et donc, j'ai pas pu le faire. J'ai senti qu'il fallait pas. Alors, à ce moment-là, elle est allée chez Albin Michel, où Francis Esmelard m'a raconté qu'il lui avait installé un bureau et tout, etc. Et finalement, qu'elle n'est pas venue. Et puis, finalement, elle a trouvé son chaussure à son pied chez Flammarion, où elle a fait du bon travail. Quand même, le départ de Françoise Vernier a eu une conséquence, c'est que ça a déshabillé le côté non-fiction de la maison. Parce que il ne restait plus dans la maison que, sur ce secteur-là, que Bernard-Henri Lévy et Jean-Paul Antoven, etc. Mais c'est vraiment un secteur... C'était d'abord Bernard, compte tenu des engagements de Bernard-Henri Lévy. Il y a des auteurs qui ne voulaient pas travailler avec lui, normal. Donc, il fallait prendre quelqu'un. Et alors là, c'est là que j'ai embauché Laure Adler, avec laquelle je me suis très bien entendu, qui nous a apporté des choses, beaucoup, pas mal de choses d'ailleurs. Curieusement, pas dans le secteur essais et documents, mais en littérature. Mais ça a foutu la maison en l'air, une explosion d'antipathie.
Que vous expliquez comment ?
J'ai jamais compris pourquoi. Je sais pas. Ça n'a pas pris. C'est une. Et là, elle est repartie. Elle est partie à France Culture, je crois.
Et justement, dans les années 90, la maison Grasset et Fasquelle va signer de nombreux jeunes auteurs, comme Yann Moix, Frédéric Becbédé, Christophe Donner, Laurette Nobécourt, Marc Weissmann et moi-même. Qu'est-ce qui, selon vous, a caractérisé cette décennie des années 90?
Mais on a toujours signé des jeunes auteurs. Alors, moi, je voulais beaucoup... Je savais que j'allais m'arrêter en l'an 2000. Enfin, je savais. C'était mon vague intention, m'arrêter en l'an 2000. Donc, je voulais favoriser vraiment que dans la maison existe un fond de solide et puis aussi le plus possible de jeunes auteurs prometteurs, enfin, qui étaient l'avenir, quoi. Alors, tout le monde s'est mis, je crois, plus ou moins. C'est très difficile parce que on avait aussi, c'est aussi quelque chose qui était important chez Grasset, c'est que personne ne pouvait dire mon auteur. Vraiment, quand un auteur était chez Grasset, était l'auteur de tout le monde. Donc, si je ne me rappelle plus qui a amené qui. Moi, je me souviens que je me suis attaché avec beaucoup d'acharnement à une jeune romancière qui n'est pas loin de moi. C'est vrai.
Comment vous allez la chercher, Virginie Despentes? Pourquoi?
Je vais la chercher dans la poche de son éditeur.
Comment vous en avez entendu parler? Et qu'est-ce qui vous fait croire que ça va fonctionner chez Grasset?
On voit que ça va fonctionner chez Grasset, il n'y a qu'à la lire. Je veux dire, c'est comme ça... pardon de dire ça devant vous, mais quand même... C'est épatant ce que vous écrivez. Non, mais il ne peut pas y avoir de doute.
Bah, il ne peut pas y avoir de doute, mais au moment où... Les premières fois qu'on se rencontre, en 1996, c'est quand même pas évident qu'une maison comme Grasset puisse accueillir l'auteur de Besmois. Ça va bien se passer, la preuve, mais quand vous me rencontrez, quand vous m'expliquez pourquoi je serais bien chez Grasset, vous êtes quand même, je crois, un des seuls à le croire de la maison. Ça vous amuse, par exemple
Ouais, Yves Berger était tout à fait d'accord. Par exemple, prendre quelqu'un de proche de moi. Les autres, je ne me rappelle pas. Mais non, et puis c'est aussi ça, c'est l'avantage d'être patron. On peut quand même suggérer à ces gens qui travaillent avec vous que c'est bien de faire ça. Non, mais en plus, vous voyez la liste que vous m'avez lue rapidement d'auteurs, c'est très varié comme horizon, comme...
Comme sensibilité, comme écriture.
Comme écriture, ouais. Oui. C'est pas... Et ça, c'est le... C'est une des marques de Grasset, c'est pas de collection, pas de... Si possible, etc. Ça a un peu changé maintenant, je crois.
Pas tant que ça.
Il y a la collection de...
Martine...
Blanche, là.
Martine Saada.
Martine Saada, il y a la collection rouge.
Charles Dantzig.
De Charles Dantzig. Il y a deux livres par an, mais enfin. Et en revanche, collection Le Chemin, qui devait. Donc, de Dominique Fernandez, a disparu.
Et pendant les années 90, vous continuez, comme toute l'édition française, à préférer que vos auteurs se passent d'agents littéraires, alors que partout ailleurs, les agents sont un élément important du secteur. Comment avez-vous été tous d'accord pour avancer dans ce sens, et est-ce que cela vous paraît rétrospectivement une bonne idée?
Oui, je pense que c'était une bonne idée de notre part, mais c'est une question de structure dans les autres pays. C'est une bonne idée parce que là où un agent peut servir un auteur, c'est pour négocier son contrat, par exemple. D'accord, peut-être que l'auteur n'a pas envie de parler chiffres, encore que je ne sais pas pourquoi. En revanche, pour ce qui est de la gestion de l'œuvre, l'agent n'existe pas. Je veux dire, après la sortie du livre, fini, terminé, il s'occupe de vendre le suivant, et c'est tout. qu'est-ce qui va garder le livre à son catalogue, qui va être capable de le vendre à l'étranger, qui va être capable de répondre à des options de cinéma 5 ans après? C'est pas l'agent. C'est ce que l'éditeur, oui. Donc si l'éditeur... Mais alors, encore faut-il que l'éditeur ait les structures pour le faire. Et qu'il ait le sentiment de l'importance de ça. Voilà. Mais moi, je pense que c'était très important, et j'avais les structures avec Marie-Hélène Devidio, qui était, je crois, une des meilleures du sur le même circuit.
Et si on parle d'argent, est-ce que ça vous paraît important, la valeur qu'on donne à l'auteur, ou est-ce que ça vous paraît absolument secondaire? C'est-à-dire, est-ce que l'argent qu'on propose à un auteur pour venir signer ou travailler avec les éditions Grasset et Fascal, c'est un élément important, selon vous?
Bien sûr, c'est un élément important. C'est ce que... D'abord, parce qu'il faut bien que les écrivains aient plus ou moins de quoi vivre. Et... Bon, l'auteur a pris un risque énorme, en ce sens qu'il a consacré 1 an de sa vie, 2 ans de sa vie, à écrire ses 300 pages, sans être rémunéré. Et c'est bien au tour de l'éditeur de prendre son risque au moment de la publication et de donner à l'auteur au moins un minimum garanti. C'est ça, Navalor, c'est un minimum garanti.
Et de lui signifier qu'il est désiré.
Oui, bien sûr. Bien sûr, oui. Oui, il y aurait peut-être d'autres, mais il y a d'autres moyens de rémunérer l'auteur, d'ailleurs. C'est toujours la même, ça revient au même. C'est-à-dire que ce soit des mensualités pendant son travail, que ce soit un avaloir, comment on appelle ça, quand il donne son manuscrit, ou que ce soit, parce que alors sur le haut niveau des transactions internationales, maintenant, ça n'a plus rien à voir avec rien, c'est un achat. On achète un produit. Moi, je n'ai pas travaillé comme ça, mais enfin... Mais je pense que je ne sais pas comment on peut faire pour... J'ai beaucoup réfléchi à l'époque, quand j'étais travaillé au syndicat des éditeurs, sur des solutions pour que des auteurs qui... Parce que les auteurs qui se vendent pas encore, j'allais dire, c'est pas très grave, parce que ça peut venir. Si on s'obstine, si on... Mais ce qui est pathétique, c'est les écrivains qui sont en chute de vente, peut-être vieillissant peut-être. Et là, tout le monde sauf eux sait que vous pouvez mettre tout l'argent que vous voulez, vous ne les vendrez plus jamais.
Et en même temps, vous avez mis un point d'honneur chez Grasset à les garder.
Ouais, on essaye parce que... On essaye, mais c'est pas toujours commode parce que ils comprennent pas pourquoi on peut quand même, on est quand même obligé de leur proposer un petit peu moins d'argent à chaque fois. Ça, c'est le côté moche des choses. Mais c'est comme ça. Il y a pas, la profession n'a jamais rien inventé. Ils n'ont pas inventé de caisse de, même la retraite, je suis plaisanterie. La retraite des écrivains. Mmh. Voilà.
Et donc, autour des années 2000, comme vous l'aviez prévu, vous passez la main. Et à ce moment-là, vous choisissez Olivier Nora. Pourquoi lui ?
Eh ben, j'avais rencontré Olivier Nora, comme ça, dans la profession, dîner avec des éditeurs étrangers ou des choses comme ça. Et il m'avait semblé brillant, parlant parfaitement anglais, connaissant l'Amérique. Donc ouvert sur autre chose que Saint-Germain-des-Prés, etc. Donc, en plus, je voyais pas qui pouvait dans la maison ne pas l'apprécier, en gros. Voilà, et puis à ce moment-là, puis le processus naturel qui était de lui parler. Puis ensuite, on en parlait à notre actionnaire principal, qui c'était Jean-Luc Lagardère qui a eu une réaction très, très affectueuse en ce qui me concerne, parce qu'il ne voulait pas que je m'en aille. Enfin, pas avant 2 ans, il me disait, je ne sais pas pourquoi 2 ans.
Vous avez hésité à partir à ce moment-là ou c'était une évidence pour vous ?
C'était une évidence pour moi, oui.
Un désir ?
C'était date à pas rater. J'avais 70 ans. L'âge de la retraite, c'est 65. Je trouve que j'avais, donc c'est durable. 70 ans, l'an 2000. Et en plus, j'avais l'impression d'avoir trouvé la bonne personne pour lui passer les rênes. Donc, voilà, il fallait le faire. Mais j'ai pas quitté le métier complètement, puisque maintenant nous voilà éditeurs en Italie.
C'est-à-dire ?
C'est-à-dire que, avec Umberto Eco et quelques-uns, nous avons créé cette maison d'édition qui s'appelle La Nave di Teseo, en Italie, qui est, en 2 ans, est devenue une des maisons de littérature les plus importantes d'Italie. Alors, bon, pas mal quand même.
Pas mal.
À 86 ans.
Pas mal.
C'est bien. Puis au moins, comme c'est loin, je suis pas obligé d'y aller.
Mais Olivier Nora, justement, raconte que lorsque vous êtes parti, il vous a demandé ce qu'il devait faire du fameux bureau d'Émile Zola, qui était votre bureau, et bureau sur lequel avaient signé leur contrat tous les auteurs importants de la maison. Et quelle a été votre réponse ?
Que j'allais la mettre à la campagne. Puis qu'ils n'en voulaient pas. Mais ce n'était pas une table d'Émile Zola, ni rien du tout. C'était un bureau que j'avais acheté aux puces. Non, ce qui était d'origine Fasquelle, c'était les fauteuils de mon bureau, où certainement Émile Zola a dû s'asseoir, entre autres. Mais la table, non, c'est une belle... Pas vous la connaissez, c'est une belle table de ferme. Alors, il y avait une table d'Émile Zola. Quand Émile Zola a été condamné, il a été condamné à une somme très importante d'amende. Et ses biens ont été saisis, tous ses meubles, tout, et vendus aux enchères. Et mon grand-père, donc, son éditeur, a acheté le premier objet qui était mis en vente, qui était une table, pour le prix total de la dette. Ce qui était bien. Et bien du coup, cette table est devenue légendaire, mais je crois qu'elle a disparu dans les déménagements de mon grand-père. Elle n'avait aucun intérêt en plus.
Jean-Claude Fasquelle, 4 décennies en compagnie des écrivains. Qu'est-ce qui, dans leur parcours, vous a le plus surpris, le plus navré, le plus intrigué ?
Alors, prenons dans l'ordre. le plus quelque chose.
Surpris ?
Leur texte. C'est vrai, c'est... Même des écrivains qu'on connaît très bien, quand un nouveau texte arrive, c'est... En général, c'est totalement sur autre chose. C'est tout à fait surprenant.
Navré.
L'échec. L'échec.
C'est-à-dire ?
Quand on croit vraiment en un livre, qu'il est bon et que ça foire, c'est navrant. C'est navrant. Puis en plus, on se demande est-ce qu'on a bien fait tout ce qu'il fallait, est-ce qu'on n'a pas trompé de date de sortie, est-ce que il ne fallait pas sortir ce livre en même temps que celui-là, est-ce que quoi, qu'est-ce, etc. Parce que c'est incompréhensible, quelquefois, c'est l'échec.
Intrigué ?
Ah, ça dépend du personnage. Mais plutôt les écrivaines. Les écrivains sont plus dans leur sillon, dans leur truc. les écrivaines aussi, quand elles parlent, mais quand on voit ce qu'elles écrivent, pas du tout. Voilà. Mais alors, on pourrait en parler des heures de ça, parce que finalement, ce qui est intriguant, ce qui est surprenant, ce qui est, c'est le propre de la nouveauté, en fin de compte. Et chaque manuscrit, c'est une nouveauté, a priori. C'est une création, tout près du bon Dieu. Non, mais sans blague, c'est vrai.
Cette rencontre de Virginie Despentes et Élodie Deglaire avec Jean-Claude Fasquelle. À voix nue, réalisation Julie Bérécy, prise de son Clémence Bonfils, coordination Claire Poinsignon. À voix nue s'écoute en ligne et se podcast sur franceculture.fr.